vous remercie. Bien, je commencerai, comme deux orateurs précédents, peut-être à présenter mes excuses pour la liberté que je prends vis-à-vis du titre original que j'ai proposé. Mais vous verrez, de toute façon, je ne prends pas, je n'ai pas pris soin de le modifier parce qu'on parlera tout de même un peu de ça. Alors, voici, je suis aussi le premier, peut-être, à sortir du domaine strict du Proche-Orient. Permettrez donc, si vous me permettez, d'être un peu pédagogique. Alors, la philologie de l'Avesta, que pour l'instant, au début, nous définirons comme le livre sacré de l'Iran mazdéen, a pour problématique centrale une question qui relève directement du rapport entre l'oral et l'écrit, qui est le thème de ce colloque. En effet, les textes de l'Avesta sont rédigés dans une langue indo-européenne de type ancien, analogue au sanskrit, au grec et au latin. Mais ces textes nous ont été transmis par des manuscrits dont le plus vieux est très exactement daté du 26 janvier 1323. La date de la langue, elle, ne peut pas être déterminée avec la même précision. Loin de là. La similitude étroite de l'avestique avec le sanskrit védique laisse envisager la date de 1500 avant l'ère commune, qui est peut-être aventureuse, et le système flexionnel qui le régit, comme le grec et le système, comme le grec et le latin, semble sortir d'usage dans le domaine iranien à une époque plus ou moins coïncidente avec la chute de l'empire achéménide, donc vers 330 avant l'ère commune. Dans un cas de figure comme celui-là, déterminer la date et les modalités de la mise par écrit constitue une obligation préliminaire. 1500 avant notre ère, 1323 après. Or, les modalités de la mise par écrit, c'est une exploration qui, d'une façon peut-être un peu étonnante, mais je vais tenter de l'expliquer, a été fort lente et fort progressive. C'est que la tradition religieuse zoroastrienne ou mazdéenne, les deux mots sont employés, qui est parfois si bavarde sur l'histoire de l'Avesta, escamote le problème de l'écriture, en présentant l'Avesta comme un corpus textuel qui, de tout temps, à travers toutes les péripéties de son histoire, de sa composition jusqu'à son apothéose sassanide, a eu forme écrite. Bref, ce serait un livre, depuis toujours. Or, cette représentation des choses est contredite, à l'évidence, par l'écriture des manuscrits, qui est clairement d'origine récente. Et dès 1876, Karl Zahlemann avait observé que cette écriture spécifique exclusivement réservé à l'usage avestique, qui n'en a jamais servi à autre chose, était formellement apparenté à la cursive moyen-perse dite des livres pelvis, qui est une écriture dérivée de l'araméen, donc de type consonantique. Ce n'est qu'un siècle plus tard que Karl Hoffmann a pu définir le rapport exact entre les deux écritures. La synthèse de son analyse est parue en 1989. Vous voyez, pas tellement ancien. Le principe, c'est que l'écriture avestique reproduit les signes de la cursive pelvie, mais les organise en un alphabet phonétique différencié qui note chaque voyelle et chaque consonne. Techniquement, comme vous le voyez sur ce tableau, hein, cela... Ah, voilà, oui. Vous avez au-dessus la liste des signes de l'alphabet pelvien, ensuite ceux de l'avestique. Techniquement, bon, je reviens au micro, comme ça vous l'entendez. Bon. Techniquement, cela signifiait passer d'un stock de 12 signes à un stock de 45 signes. Comme la majeure partie des 33 signes supplémentaires est produite par l'adjonction d'une fioriture, un signe diacritique à une lettre existante, l'apparence formelle de l'écriture pelvie est uniformément préservée dans l'ensemble de l'alphabet. La nature d'une telle opération permet de dégager un certain nombre de conclusions, mais suscite aussi plusieurs questions. Alors, première remarque, c'est que l'alphabet avestique est une invention. C'est une invention. Ce n'est pas le produit de l'évolution naturelle ou mécanique d'un système d'écriture plus ancien. Il a nécessairement été conçu par un individu ou par une petite équipe, officiellement investie de la tâche et animée d'une intention précise. Alors, on peut se poser la question, ça rejoint tout de même un peu mon titre, qui étaient ces hommes ? Bien, leur imprégnation culturelle, c'est à l'évidence la littérature religieuse zoroastrienne en moyen perse, du premier millénaire avant du premier millénaire de l'ère commune. Traditions religieuses dont ils ont reproduit le modèle formel d'écriture, mais aussi ils connaissaient le grec. Ils connaissaient le grec dont ils ont adopté le modèle typologique et auquel ils ont d'ailleurs emprunté deux signes, clairement, epsilon et upsilon, deux voyelles, bien sûr. Alors, autre question, quelle était leur motivation ? Dans quel but travaillaient-ils ? Bien, ils procèdent avec le double souci, évident, de préserver les affinités de leurs produits avec leur propre tradition culturelle. Et deuxième but, de mettre au point un outil plus performant de précision phonétique. Il s'agit clairement de garantir donc plus efficacement l'exactitude et la permanence de l'élocution de textes rédigés dans une langue morte depuis longtemps, donc devenue incompréhensible à tout un chacun, mais qui est la seule en usage liturgique. Alors, un détail en passant, cet idéal a évidemment ses limites, parce que la prononciation évolue souterrainement, quelle que soit l'écriture. Hein. La phonétique du temps de la mise par écrit n'est plus celle de la langue originale, et l'élocution de la période de transmission écrite, elle aussi, va évoluer et colorer les graphies. Ça ne facilite pas le travail. Je voudrais insister aussi, il faut bien s'en rendre compte, je crois, hein, c'est que je voudrais insister sur la compétence technique que suppose l'opération. Changer un système consonantique en système alphabétique constitue un saut culturel considérable qui suppose une réflexion profonde sur la nature de la langue. C'est un travail de linguiste, de pré-linguiste, si vous voulez. En ce sens, l'invention de l'écriture avestique est peut-être l'ultime manifestation de cette tradition grammaticale indo-iranienne dont l'Inde a fourni de grands exemples, hein, Panini par exemple, au premier millénaire avant l'ère commune. Et puis, mettre par écrit ce qui ne l'avait jamais été et de surcroît dans un type inédit d'écriture, c'est aussi un exploit. C'est un exploit. Pour ce faire, comme l'a écrit mon collègue Cherveux, il n'y avait que deux méthodes possibles. Soit écrire sous la dictée d'une deuxième personne, soit suivre le fil de la réminiscence personnelle. Ces prêtres connaissaient le texte par cœur, bien sûr. C'est vrai, mais ça ne concerne que les grands produits achevés que nous possédons. Alors, on peut se poser la question de savoir quels essais partiels, avortés, imparfaits, n'ont pas comporté le processus d'invention de l'écriture. Nous sommes incapables, bien sûr, non seulement de les déceler, mais même de les imaginer. Et on peut aussi se poser la question de savoir quel reflet de ces balbutiements perdus subsiste dans le désordre foisonnant des graphies attestées. Alors, il reste un point essentiel, mais qui reste absolument obscur. Quoi que ce ne soit, vous verrez, ce n'est pas d'une gravité exceptionnelle, parce qu'on jouit tout de même d'une approximation. C'est la date. Elle est restée en discussion jusqu'à nos jours, et je ne vais pas entrer dans les détails, mais je dirais que les indices paléographiques, comme nous les percevons aujourd'hui, nous invite à considérer que l'écriture avestique était possible à partir du VIe siècle de l'ère commune et pas avant. C'est tard, donc. Elle date des deux derniers siècles de l'Empire sassanide, mais elle est aussi peut-être plus tardive. Alors, tout ceci entraîne le corollaire que vous voyez, hein. Quoi qu'il en soit, la date, c'est que la majeure partie de l'histoire de l'Avesta est l'histoire d'une tradition orale. Tout ce qui concerne l'Antiquité, hein, avant le VIe siècle de l'ère commune, relève d'une manière ou d'une autre de la tradition orale. Alors, comment envisager celle-ci ? À la fin du XIXe siècle, l'éditeur de l'Avesta, c'est l'édition qui existe encore, mais j'espère qu'elle sera bientôt remplacée, Carl Friedrich Geltner, a justement insisté sur le fait que la philologie avestique ne pouvait pratiquer la haute critique textuelle, mais seulement la basse. C'est que tous les manuscrits, sans exception, donnent la même version du texte, en ceci qu'ils reproduisent le même mot à mot, si bien que nous n'avons à discuter ni inversion, ni interpolation, ni variante textuelle, n'entrant en ligne de compte que les variations orthographiques. La conclusion imparable est que le texte qui nous est parvenu est un texte né varietur. Mais la question reste de savoir si c'est parce que les manuscrits existants émanent de la même recension écrite ou parce que la forme définitive du texte a été fixée à un certain moment de la tradition orale, donc toute cette période de l'Antiquité qui est si vaste avant le VIe siècle. C'est une question que nous ne pouvons pas aborder avant de bien prendre conscience de la nature de l'Avesta. Ce n'est pas, justement, je reviens sur le début, ce n'est pas à proprement parler ce que nous appelons par analogie un texte sacré. C'est un ensemble agencé de récitatifs liturgiques, c'est-à-dire de textes foncièrement destinés à accompagner le cours d'une cérémonie déterminée. Cette perception du texte a été longtemps voilée par sa structure apparente. C'est que l'édition de Geltner donne l'impression, cautionnée par son sous-titre, « The Sacred Books of the Parsis », les livres sacrés des Parsis, que l'Avesta est composée de 5 livres. Bon, vous avez le titre ici, « Yasna, sacrifice », Le Visprat, tous les temps rituels, Videvdat, prescription pour tenir les démons à l'écart, les Yasht, sacrifices, et l'Avestakur, Korda Avesta. Ces divisions correspondent à une certaine réalité, mais aussi se distribuent, c'est le premier groupement, en deux ensembles dont les manuscrits transmettent l'un à l'exclusion de l'autre. Le premier, ce premier ensemble unitaire, associe le Yasna, le Visprat et le Videvdat pour composer une longue liturgie solennelle. Et le second apparaît comme une anthologie de liturgie plus brève, hymne aux dieux autres qu'Ahura Mazda, ce sont les Yasht, puis des liturgies mineures, privées, saisonnières, etc., qui parfois peuvent être accomplies par les laïcs. Or, ça, c'est le premier regroupement, il y en a un deuxième. C'est que les recherches plus récentes font apparaître que cette division elle-même doit être relativisée. Les cérémonies sont de types divers, et certaines impliquent l'assemblage de textes repris aux deux ensembles liturgiques. L'image du corpus avestique, qui est aujourd'hui en voie de se constituer, c'est celui d'un ensemble de modules susceptibles d'être associés et organisés de manière diverse, mais dont le socle est toujours le Yasna ou certains de ses chapitres. Et dans cette perspective, deux conclusions, l'une de confirmation, l'autre neuve, peuvent être retenues. La première confirmée, c'est que selon leur usage, les modules peuvent être amputés ou amplifiés mais les textes constitutifs de chaque assemblage sont toujours identiques, de sorte que le caractère né variétur des textes reste absolu. Alors, la conclusion 9, c'est une chose qu'on ne sait pas depuis longtemps, c'est que les cursus liturgiques que ces récitatifs animent sont très anciens, car les cérémonies décrites par ceux-ci, par ces textes eux-mêmes, y sont déjà soumises. On soupçonne donc que chaque texte a été composé pour servir de module dans une cérémonie donnée. Alors, c'est répondre à la question que je posais. Les textes est né variétur, non pas parce qu'il émane de la même recension écrite, mais parce que la fixation a été faite de manière très ancienne, à l'époque même de la tradition orale. Et il nous reste bien sûr, en dehors de ces textes, quelques fragments qui peut-être émanent d'un plus vaste corpus de textes. Nous les avons appelés métarituels parce que ces quelques fragments que nous avons recueillis sont soit des commentaires exégétiques des liturgies, soit des réglementations qui régissent leur mise en pratique. Alors, je conclurai que dans cette perspective, des indices forts plaident pour une fixation très ancienne des textes. En premier lieu, nous en avons la certitude par un fait donné que j'explique maintenant. C'est que l'Avesta n'est pas un corpus chronologiquement homogène. Il y a une grande distinction qu'il faut faire. Les textes qui composent, grosso modo, il faudrait nuancer, mais les chapitres 28 à 53 sur 72 du livre du Yasna sont manifestement plus anciens que tous les autres. C'est le cœur du Yasna. Si bien que nous opposons en bonne méthode un Avesta dit ancien, ces chapitres-là, à un Avesta dit récent, tout le reste. Or, nous pouvons constater dans l'Avesta récent que l'Avesta ancien qui est installé au cœur du livre socle était très exactement, mot à mot, celui qui nous est parvenu. La table des matières qui en est dressée témoigne de l'identité du contenu et de l'ordre de succession des textes. Et les citations de textes éparses dans le corpus témoignent de l'identité du mot à mot, là aussi il faudrait un peu nuancer, mais ne sont jamais reprises à un texte inconnu. Donc le corpus est fixé et clos. Le corpus de l'Avesta ancien est fixé et clos dans l'Avesta récent. Bon, voilà. Nous ne disposons pas d'indices aussi probants pour les textes de l'Avesta récent dès lors qu'il est difficile d'établir leur chronologie relative et que les plus longs et les plus narratifs, comme les yashts et quelques chapitres constitutifs du yasna, donnent l'impression du disparate. Et Antoine Meillet disait, le grand comparatiste de cette maison, disait en 1917 une série de fragments de dates diverses, pour la plupart très menus et juxtaposés sans ordre. Mais il faut se méfier. Je prendrai l'exemple particulièrement frappant d'un yasht, le yasht 19. En apparence, il est composé de deux parties de longueur très inégale et de sujets complètement différents. C'est un exemple que je vous donne. Les huit premières strophes de ce texte racontent la naissance des montagnes. Et les 89 strophes restantes font l'historique de la possession du Kwarna. Du Kwarna qui, pour être simple, est une sorte de fluide lumineux caché dans les eaux qui donne aux héros du passé iranien la légitimité et la force d'accomplir leurs exploits. Or, nous pouvons être sûrs que l'assemblage de ce court fragment géographique et de ce long récit d'histoire mythique est ancien, car un paragraphe du Yasna, c'est le Yasna 1.14, signale l'existence d'un texte consacré d'abord aux montagnes, puis aux diverses phases de la possession du Kwarna. Il apparaît ainsi que les textes du type yasht, longs et narratifs, sont effectivement composites, comme on l'a dit, mais que leurs éléments constitutifs, si hétérogènes qu'ils soient par leur sujet et par leur style, ont été réunis à date ancienne et dans le souci d'une certaine nécessité thématique, qui ne nous paraît pas toujours logique, mais qui est certainement présente. L'Avesta relève donc, pour la composition de ces textes, leur fixation et leur arrangement, qui sont peut-être concomitants, et pour la plus longue période de sa transmission, des processus qui sont propres aux littératures orales. C'est un facteur longtemps négligé, dont la recherche récente a maintes fois rappelé l'importance. Mais il faut aussi reconnaître qu'il n'a que très peu d'implications opératoires pour le travail philologique. En premier lieu, comme chacun en est bien conscient, ce monument de littérature orale ne nous est connu que sous forme écrite et dans une version unique. Plus théoriquement, l'appartenance à la littérature orale demande une clarification à laquelle je ne vois pas que l'on ait procédé. C'est la littérature orale, certes, et à l'évidence, mais quel genre de littérature orale ? Je veux dire, pour quel usage fut-elle produite ? La définition de poésie rituelle, qui serait certainement la plus courante pour la plupart des spécialistes aujourd'hui, et même pas tous. Cette expression de poésie rituelle, je l'ai trouvée dans une étude récente encore, recouvre une redoutable ambiguïté. Alors que poésie réfère à l'œuvre de création littéraire, rituel assigne à cette œuvre un but finalement imprécis. Je pense qu'il faut le dire de façon très claire. C'est que tous les textes avestiques qui nous sont parvenus, à l'exclusion des fragments méta-rituels, sont des récitatifs liturgiques, c'est-à-dire une poésie rituelle strictement destinée à participer au déroulement d'une cérémonie précise. Et à ce titre, il constitue une catégorie spécifique de littérature orale que l'on ne peut traiter comme les chants des bergers bosniaques du XIXe siècle, ni même comme les poèmes des aèdes homériques, leurs contemporains approximatifs. Ce ne sont pas des œuvres visant au divertissement des hommes, mais une parole adressée aux dieux, dont l'exactitude méticuleuse est garante de l'efficacité magique. Ce caractère est la cause même de la fixation presque immédiate des textes et est incompatible avec l'émulation créatrice d'artistes soucieux de plaire. Significativement, on ne trouve dans l'Avesta nulle part aucune célébration de l'art poétique. Le poète ne se vante jamais de ce qu'il fait, contrairement aux auteurs des hymnes du Véda. Mais au contraire, on trouve l'affirmation du respect d'un texte immuable. Et je prendrai deux exemples frappants. Ainsi faut-il traiter la Huna Vairya, qui est la formule clé de voûte du rite avestique selon le Yasna 19.5. Cette formule, si elle est récitée sans intercalation ni inversion de mots, vaut 100 autres formules elles-mêmes récitées sans intercalation ni inversion de mots. Et si elle est récitée avec intercalation et inversion de mots, elles vont malgré tout 10 autres formules. Et lorsque le récitant de l'annonce initiale du sacrifice, ce qu'on appelle une nivite, a terminé sa litanie d'annonce, il prend cette précaution. « Si je vous ai nui, dit-il au Dieu, par une pensée, un mot, un geste, consciemment ou inconsciemment, si je vous ai frustré d'une pensée, d'un mot, d'un geste, du sacrifice et du chant d'adoration, à nouveau, je fais pour vous l'annonce préliminaire et l'annonce de ce sacrifice et de ce chant d'adoration. » C'est-à-dire qu'il va réciter une deuxième fois le texte pour gommer éventuellement les défauts éventuels de la première récitation. Vous voyez que, bon, je terminerai en renouant avec mon titre provisoire, comme l'invention de l'écriture. Le travail de fixation et d'ordonnancement des textes dans le but de répondre aux exigences de la parole rituelle exigeait un personnel spécialisé. L'Iran a eu, ou dut avoir, ses équipes sacerdotales, analogues dans une certaine mesure à la caste brahmanique de l'Inde. Nous savons que l'empire sassanide, premier millénaire de l'ère commune, avait eu son clergé institutionnel. Mais tout ce qui précède est problématique ou indistinct. À partir de 513 avant l'ère commune, les documents achéménides signalent l'activité religieuse de ceux qui se prévalent du titre de chatin, qui est clairement élamite, ce n'est pas un mot iranien, ou de magou, les mages, hein, magou. Mais c'est un mot dont on ne peut être véritablement sûr qu'il est iranien. Ils n'ont aucune sécurité à cet égard. Les mages sont aussi attestés par des documents antérieurs à 513, mais sans aucun lien avec l'activité religieuse. Nous sommes au cœur d'une problématique qui est loin d'être résolue. Alors, la doctrine et les rites de l'Avesta récent, eux, sont confiés à la catégorie sociale, c'est une couche sociale spécialisée de gens qu'on appelle des atarvanes, ce sont les prêtres vus du point de vue social. Les deux thèmes grammaticaux exacts sont atravan et ataurun. Et pour l'Avesta ancien, mystère, nous n'en savons rien. Le problème central, c'est que l'Avesta ignore les magous, les mages. Le mot n'existe pas. Et que les atarvanes n'existent que dans l'Avesta. Cette situation inconfortable a un côté positif, car elle met en lumière la manière adéquate d'envisager la question de la religion des achéménides. Il ne s'agit pas de le faire en termes de conversion, comme on l'a fait trop longtemps, car le zoroastrisme n'existe pas en tant que doctrine de rupture avec le passé, mais de savoir où les achéménides se situent par rapport au rite avec récitatif avestique. En d'autres termes, la fixation des récitatifs avestiques est-elle l'œuvre des atarvanes, œuvrant dans un lieu qui nous est inconnu, en liaison avec un pouvoir politique inidentifié et inidentifiable, ou est-ce l'œuvre des magous qui, tôt ou tard, cela, nous le savons, ont pris en charge leur tradition. Ceci se résume en définitive à une question de chronologie. Je tendrai à défendre la première solution, mais bon, nous sommes loin d'une discussion assurée à ce sujet, et je vous laisserai sur cette incertitude, si vous le permettez. Merci.